Bonsoir. Affaire procureur de la CPI contre Jérémy Katanga, le verdict est tombé le week-end dernier. Jérémy Katanga est reconnu coupable de complicité des crimes contre l'humanité et de complicité des crimes de guerre commis en 2003 à l'Ituri. Pour la CPI, l'ancien chef de la milice FRPI a servi d'intermédiaire entre les fournisseurs d'armes et les auteurs directs du massacre des villageois de Bogoro. Les ONG de défense des droits de l'homme saluent pour la plupart la décision de la CPI alors que la société civile de l'Ituri la qualifie de fantaisiste. Quelle lecture faire de cette décision de la CPI? Nous en parlons avec Maître Guy Mouchata, il est chargé de programme lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Bonsoir Maître Guy Mouchata.
Bonsoir.
Jean Bosco Lalo, il est coordonnateur de la société civile de l'Ituri en province orientale. Bonsoir Jean Bosco Lalo. Voilà, on nous dit qu'il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Et Maître Juvenal Mounoubo Moubi, il est député national et analyste des questions juridiques. Bonsoir Maître Juvenal Mounoubo Moubi.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Plusieurs réactions parmi lesquelles celle de Roland Bahati de Goma au Nord Kivu. La décision de la CPI est à saluer. Mais il faut que la CPI arrête d'autres auteurs de crimes car dans notre pays, les crimes sont à tous les niveaux. Il faut arrêter aussi tous les collaborateurs de Jérémy Katanga. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Le verdict du procès Jérémy Katanga est tombé vendredi dernier à la Haye. Il a été reconnu coupable de complicité des crimes contre l'humanité et de complicité des crimes de guerre commis en 2003 à Ituri. Pour la Cour, l'ancien chef de la FRPI a servi d'intermédiaire entre les fournisseurs d'armes et les auteurs directs du massacre des villageois de Bogoro. La sentence n'est pas encore prononcée, ne sera pas prononcée avant plusieurs semaines, mais l'homme risque jusqu'à 30 ans de prison. Suivons ces précisions de Stéphanie Mopa.
Faute de preuves, les juges n'ont pas retenu sa responsabilité directe dans les crimes, mais ont souligné son pouvoir dans la région en 2002 et 2003 et ses qualités de commandant au sein de la communauté Ngiti, selon les termes des juges, dont l'objectif était d'effacer la population de Bogoro, majoritairement Emma. Au moins 60 personnes, dont 30 civils, avaient trouvé la mort. Tout au long du procès, le procureur avait assuré que le milicien était l'auteur direct des crimes, mais n'est pas parvenu à en apporter les preuves. Les juges avaient donc décidé de changer les charges pour pouvoir établir la complicité de l'accusé dans les crimes. Jérémy Katanga a par ailleurs été acquitté de viol et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans ses troupes. Les juges ont souligné que la milice Ngiti était animée d'une idéologie ethniste anti-Emma. Pour eux, il s'agissait d'un conflit à dimension ethnique se mêlant à des questions géopolitiques, selon les termes des juges, qui rappellent qu'à l'époque, l'Ouganda était une puissance occupante et que l'UPC, milice alors soutenue par Kampala, disposait d'un camp militaire dans le village de Bogoro. À La Haye, Stéphanie Mopa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Les réactions sont plutôt mitigées à Ituri. L'ONG de défense des droits de l'homme Justice Plus salue ce verdict. Mais la société civile qualifie les jugements de la CPI de fantaisistes. Rejoignons sur place à Bounia Jean-Paul Basila.
Justice Plus, ONG locale de défense des droits de l'homme, salue le verdict et souhaite que la peine qui sera prononcée contre Jérémy Katanga soit la plus forte possible. Cette ONG regrette le fait que Jérémy Katanga soit acquitté des crimes de viol, de celui de la réduction à l'esclavage sexuel, ainsi que de celui de l'utilisation des enfants soldats. Justice Plus pense que les juridictions nationales peuvent s'en occuper en traquant des complices et cela pour l'intérêt des victimes. La société civile de l'Ituri, elle, estime que le jugement rendu contre Jérémy Katanga n'est pas crédible. Jean Bosco Lalo, son coordonnateur, ne comprend pas pourquoi la CPI a acquitté Mathieu Ngoudjolo. Elle condamne aujourd'hui Jérémy Katanga. Pourtant, les deux chefs miliciens auraient été poursuivis pour les circonstances similaires. C'est un jugement des fantaisies dont les raisons ne sont connues que par la seule cour. La notabilité de la communauté Ngiti, dont Jérémy Katanga est ressortissant, se réserve de réagir pour le moment, estimant qu'il est encore tôt. Bounia, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Maître Guy Mouchata, je rappelle que vous êtes chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Quelle lecture vous faites, vous, de ces verdicts, n'est-ce pas, de la CPI contre Jérémy Katanga?
Merci beaucoup. Je pense que ce verdict tombe à point nommé au moment où tout le monde essayait de penser ou que la CPI était en train de s'essouffler on voit bien que le travail continue. Et pour, essentiellement pour les victimes, je pense que c'est une décision qui leur permet de garder l'espoir, dans le sens que pour la première décision concernant Thomas Lubanga, on est encore au niveau du procès sur la réparation, et que cela s'est fait attendre. Donc, pour les victimes, cette seconde décision de la CPI permet de garder l'espoir et surtout d'espérer que cette fois-ci sera la bonne par rapport au procès sur la réparation. Mais évidemment, il reste encore quelques ratés, dans le sens que l'on connaît que le conflit en RDC a été basé aussi sur l'utilisation de violences sexuelles et de viols comme armes de guerre. Mais jusque-là, on n'arrive pas à obtenir une décision, une inculpation d'un accusé par rapport à ces incriminations. Donc j'espère bien que dans la suite des choses, le procureur devra intensifier ses enquêtes pour effectivement arriver à réprimer les auteurs des violences sexuelles et des viols.
Oui, maître, dans les reportages de notre consoeur Stéphanie Mopa, il est dit ceci, faute de preuves, les juges n'ont pas retenu sa responsabilité directe dans le crime. Maître, cela voudrait dire quoi? Que le fait qu'on n'a pas pu établir sa culpabilité directe, on utilise le terme coupable de complicité des crimes et pas coupable des crimes.
Mais vous savez qu'en droit, la commission, pour être jugé coupable, on peut soi-même exécuter une action ou commettre une infraction ou commettre cette infraction en apportant des moyens qui sont déterminants pour la réalisation de cette infraction ou en être le co-auteur ou le complice. Donc cela n'enlève à rien le niveau de responsabilité donc des complices ou des co-auteurs ou des exécutants direct. Donc, c'est simplement la démarche des juges pour démontrer quel a été le degré de sa participation dans la commission des crimes. Mais cela ne soutient rien quant au niveau ou au degré de la sentence qu'il encourt.
Alors, dans le même reportage, l'on indique que tout au long du procès, les procureurs avaient assuré que Germain Katanga était l'auteur direct des crimes, mais n'a pas été en mesure d'apporter les éléments de preuve. Donc, le procureur n'a pas été en mesure d'apporter les éléments de preuve. Comment l'on peut accuser sans pour autant étayer ses accusations sur des preuves? Ou alors, il y avait des preuves, mais pas suffisantes, n'est-ce pas, pour que Germain Katanga soit considéré comme étant auteur direct?
Ben justement, parce que au niveau de la Cour pénale internationale, les juges veillent à ce que les preuves qui sont apportées soient au-delà de tout doute raisonnable pour arriver à condamner une personne. Et en matière pénale, justement, lorsque le juge a un seul doute sur la nature des preuves qui lui sont apportées, il a l'obligation de pouvoir acquitter. Et si les juges ont constaté que les preuves qui ont été apportées par les procureurs ont étayé sa responsabilité liée à une activité, je dirais, de complicité et non à une activité d'exécution des directs, les juges ont pleinement raison de pouvoir écarter le monde de responsabilité retenu par les procureurs parce que eux ne sont pas tenus parce que le procureur, a écrit ou a déclaré et sont tenus par les moyens de preuve qui sont apportés au niveau du débat, qui est d'ailleurs du reste contradictoire. Et ces débats, et c'est entre la partie qui est représentée, pour parler simplement, Germain Katanga, mais aussi la partie qui représente les victimes et les procureurs, mais les juges se font une idée exacte de la nature de la responsabilité en rapport avec le moyen de preuve qui ont été fournis, et ils ont abouti à cette conclusion. Les juges ne sont, en toute occasion, en toutes circonstances, ne sont pas tenus de suivre nécessairement le procureur dans le type de des déclarations ou des réquisitions qu'il peut faire par rapport à au mode des responsabilités, n'est-ce pas, dont lui, que lui plutôt retient par rapport à un accusé.
Alors, vous avez dit qu'il reste quelques ratés. Jean-Marc Katanga a été acquitté des viols et d'enrôlement d'enfants soldats. Déjà, cette décision est contestée par certaines personnes qui étaient enfants soldats à l'époque des faits. Et ces personnes affirment que c'est Jean-Marc Katanga qui les avait enrôlés. Et à votre avis, pourquoi le procureur n'a pas cherché à étoffer son dossier avec ses ex-enfants soldats qui déplorent aujourd'hui que Katanga soit acquitté des viols et d'enrôlement d'enfants?
Ben, je pense que il me serait difficile d'entrer dans la logique du procureur ou dans sa politique, mais l'on doit constater que ce n'est pas la première fois. Vous savez que le procureur, dans les procès Lubanga, avait déjà refusé de pouvoir élargir les charges et s'est cantonné juste à la charge concernant l'enrôlement et la conscription des enfants. Il s'agit de la politique du procureur, c'est peut-être là qu'il a des preuves suffisantes pour pouvoir asseoir l'accusation et ainsi amener les juges à condamner, n'est-ce pas, l'accusé. Donc il me sera difficile de pouvoir donner une réponse adéquate à cette préoccupation, mais je pense que cela relève justement de la politique du procureur et des moyens de preuve dont il dispose pour pouvoir essayer donc de convaincre les juges de condamner un individu. Est-ce à dire que l'accusé n'a pas commis les autres actes qui sont évoqués par les auditeurs? Je pense que non. On s'en tient au processus judiciaire, au débat et au procès tel qu'il a eu lieu. Et rien n'empêche qu'une personne qui a été accusée d'un certain nombre de faits soit condamnée aujourd'hui et que demain, si on arrive à obtenir suffisamment de preuves au-delà de tout doute raisonnable par rapport aux autres violations graves que cette personne peut avoir commis, cette personne peut de nouveau être poursuivie devant la Cour pénale internationale.
Merci.
Donc, l'accusation ne s'arrête peut s'arrêter là ou aller davantage à d'autres investigations pour mener l'accusé à un nouveau procès.
Merci Jean Bosco Lalo, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Jean Bosco Lalo, les ONG de défense des droits de l'homme saluent ce verdict de la CPI contre Germain Katanga. Mais vous, de la société civile de l'Ituri, vous estimez que ce jugement n'est pas crédible. Pourquoi?
En fait, nous venons de suivre avec les co-débatteurs qui a présenté la situation de Germain Katanga. Et il s'agit d'une politique du procureur. Et les juges n'agissent que par rapport à ce que le procureur lui avance comme argument. Et vous comprenez justement que nous estimons que la procédure, les condamnations au niveau de la Cour, en tout cas, semble être fantaisiste aux yeux des communs des mortels.
Pourquoi fantaisiste?
Parce qu'il y a des faits par rapport auxquels on pensait que le procureur pouvait approfondir les enquêtes et curieusement, on se trouve dans la situation telle qu'il y a quelques éléments seulement qu'il retient et qu'il développe et puis par rapport à ça, le juge aboutit à la condamnation. Donc nous pensons que vraiment sur le plan même des droits ou même des faits, ce n'est pas consistant.
Oui, quels sont ces faits sur lesquels, selon vous, le procureur devait se baser?
Pour nous, la situation qui est en Ituri a été globale. Et vous avez bien suivi le débatteur, je n'ai pas les noms. Il a développé que la condamnation est orientée vers toutes les personnes qui étaient impliquées ou en fait qui ont droit aux affaires de complices. Et on voit les degrés de participation. Et nous connaissons en Ituri que ces gens-là qui aujourd'hui sont à la CPI, que ce soit Thomas Lubanga, que ce soit Mathieu Ngoudjolo, que ce soit Germain Katanga, finalement, ce sont des fils de l'Ituri qui étaient simplement instrumentalisés par certaines personnes. Et il y a des rapports au COCOPA qui font même voir les personnes-là qui étaient impliquées dans ces histoires-là, mais malheureusement, ils disent qu'ils ont fourni des moyens indispensable pour qu'il commette les faits, pour qu'il soit poursuivi, mais cette personne reste toujours non inquiétée. Et cela laisse la population à l'épargne.
Et donc vous estimez que Lubanga, Ngoudjolo et Katanga n'ont été que des marionnettes et que les vrais commanditaires sont là, libres de leur mouvement?
En tout cas, nous l'avons toujours soutenu. On a même eu à démontrer que le conflit ethnique a commencé avec des machettes, avec des lances, et ça ne pourrait pas faire des dégâts qu'on a connus. Mais finalement, il y a des armements, nous on connaît les filières qui ont apporté les armes, et que l'Ituri était en dehors à ce degré-là. Donc nous estimons qu'il faut qu'on approfondisse la quête et qu'on aille jusqu'à retrouver les complices qui étaient indispensables pour que ces faits soient commis.
Oui, même si il n'y a pas équité selon vous dans ces verdicts, reconnaissez-vous quand même que le fait d'avoir condamné un ancien milicien, cela peut satisfaire les populations qui avaient vécu les affres de ces conflits en Ituri, en province orientale?
La population de l'Ituri connaît pratiquement comment les choses ont commencé, comment ça a évolué, et aujourd'hui ici les gens cohabitent pacifiquement. Ce n'est pas du fait de la CPI, mais c'est parce qu'il y a une prise de conscience collective où on s'est pardonné mutuellement, on a estimé qu'on était utilisé et traumatalisé. Et finalement, les vrais bourreaux, ce sont les villages voisins entre eux. Et puis, ce sont des personnes qui se connaissent, qui se côtoient, qui se voient, qui se visitent mutuellement. Donc finalement, nous pensons que ce qui se fait au niveau de la CPI n'apporte pas grave dans les procédures de la facilité du bourreau.
Oui, Monsieur Lalo, vous êtes de la société civile de l'Ituri. Il y a des témoignages selon lesquels des crimes avaient été commis, des enfants avaient été enrôlés, et des fosses communes avaient été découvertes. Mais la CPI n'arrive pas à établir tout cela. Et à votre avis, la CPI devrait continuer à agir ainsi ou elle devrait repenser ses méthodes? Vous avez parlé d'approfondir les enquêtes.
Oui, vous l'avez déjà dit, et même par rapport aux affaires soldats, je pense qu'elles reposent dans les communautés sont très claires, parce que finalement, s'il y a des affaires qui se trouvaient dans les rangs des combattants, ce n'était pas forcément parce qu'ils étaient recrutés, mais c'est du fait de voir que le papa est décédé, la maman est décédée, le grand frère est mort. Alors finalement, chacun pensait que lui aussi allait mourir. Il fallait un engagement collectif, et c'était ce que les papas se retrouvaient dans la ligne de front. Donc nous, si cela a été récupéré à un niveau, ça c'est autre chose, mais nous pensons que par rapport même à ces prévations-là des affaires des soldats, finalement, c'est chef militaire, Thomas Soubanga, Martin Mujolo, Jean-Luc Katanga, en tout cas, se sont retrouvés à un niveau donné de ces événements.
Oui, monsieur Jean Bosco Lalo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kisangani en province orientale.
Mirugi Nestor, depuis Kisangani, province orientale. Moi, j'adhère complètement à l'avis de la société civile de l'Ituri, qui dit que la décision de la CPI, c'est une décision fantaisiste. Bon, selon mon avis, je crois que la CPI doit au moins changer son approche, c'est-à-dire elle doit commencer aussi à s'attaquer non seulement aux chefs rebelles, mais aussi à ceux qui ont alimenté la rébellion, notamment les multinationales et les pays voisins. Parce que s'attaquer seulement aux chefs rebelles de l'Ituri, c'est tout simplement chercher les petits frères et laisser les gros. Je crois que cette approche, moi, qui me semble un peu bien, et ça peut aider la CPI de rendre justice de façon intégrale et puis complète.
Oui, M. Lalo, il semble vous rejoindre.
Une nouveauté, ce n'est pas lui seul, il y a aussi d'autres qui pensent comme lui, d'autres qui pensent mieux que moi, mais je pense que c'est ça la situation.
Et donc, vous estimez qu'il y a des gens qu'on doit arrêter parce que ces gens étaient aussi impliqués dans les conflits en Ituri. Et pourquoi vous, la société civile, n'avez-vous pas tenté de collaborer avec la CPI pour fournir à cette juridiction les informations que vous détenez?
Monsieur le journaliste, vous avez suivi comment il a été dit par les co-débatteurs que la CPI a une politique, les procureurs ont sa politique, les juges ont leur politique. Donc finalement, ce n'est pas une question de droit sur le, dans ses approches matérielles, mais c'est plutôt une politique.
Ok, merci. Maître Juvenal Mounoubo Moubi, je rappelle que vous êtes député national et analyste des questions juridiques. Comment vous analysez cette décision de la CPI dans les procès Germain et Katanga?
Je salue, tout comme l'Union pour la Nation Congolaise, mon parti salue le verdict de la Cour pénale internationale dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga. Pourquoi? Parce que nous sommes animés par les soucis de lutter contre l'impunité. Il faut mettre fin à l'impunité, et lorsqu'on voit les viols, les meurtres, les incendies des villages et toutes ces atrocités qui ont été commises pendant cette période, eh bien, on ne peut que saluer une décision de la Cour rendue dans ce sens. Je comprends par ailleurs les frustrations au sein de la société civile et peut-être des victimes aussi. Pourquoi? Parce que les faits ont été commis dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps. Et on se pose la question pourquoi Mathieu Ngoudjolo a été relaxé et Germain Katanga condamné. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à placer par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas participé, je n'ai pas fait un monitoring des procès à la Cour pénale internationale. La Cour est guidée par ses principes, mais les soucis, c'est de voir en fait ces victimes être rétablies dans leurs droits, que les dégâts soient réparés. Donc je comprends ces frustrations, mais pour mieux comprendre l'action de la Cour, il faut comprendre aussi comment fonctionne la Cour, l'administration de la preuve, et comme l'a dit Maître Mouchata, les doutes profitent aux prévenus. Je suis d'accord aussi avec ceux-là qui pensent que la Cour doit aller plus loin. Pourquoi ? Parce que il y a lieu effectivement de s'interroger si des personnes qui ont été déférées devant la Cour pénale internationale ne sont pas que des superviseurs des atrocités ou des exécutants locaux. Est-ce que ça se limite au niveau de ces personnes ? Est-ce que ça ne remonte pas au niveau plus élevé et même en dehors de frontières ? Je crois qu'il y a lieu de se poser des questions et d'arriver effectivement à rendre responsables les auteurs moraux hautement placés. Donc il y a lieu de s'interroger et seules les enquêtes de la Cour pourraient dans les jours à venir nous en dire davantage. Donc je comprends les frustrations. C'est le désir de la population de demander à la Cour d'aller plus loin. Je voudrais ici à cette occasion rappeler la nécessité de la réforme du secteur de la justice. Pourquoi ? Parce que la Cour pénale internationale agit à titre complémentaire. Et c'est lorsque on a épuisé les voies de recours ou lorsque on n'a pas exercé ces voies de recours, eh bien ça vient suppléer, je vais dire ici, aux insuffisances en quelque sorte de notre justice. Si notre justice était efficace, eh bien nous allions juger des personnes soupçonnées des crimes ou atrocités ici. C'est ça l'idéal. L'idéal aurait été que la justice congolaise juge Monsieur Germain Katanga, juge Monsieur Mathieu Ngoudjolo et d'autres. Mais si les Congos les a déférés devant la Cour pénale internationale, et c'est parce qu'il fallait vraiment être conscient que nous n'avions pas des moyens nécessaires. Nous devons encore réformer notre secteur de justice.
Oui, Maître Juvenal Munubo Mubi, Germain Katanga a été acquitté des viols et d'enrôlement d'enfants soldats. Et cette décision semble être contestée par les différentes victimes. Y a-t-il possibilité que la justice nationale puisse se saisir de ces dossiers et même mener les enquêtes? Vous avez parlé de la nécessité, n'est-ce pas, de réformer la justice nationale.
Je crois, j'ai parcouru le statut des Roms, les règles de procédure. Je n'ai pas vu une interdiction dans ce sens-là, raison pour laquelle Justice Plus, qui est une ONG des droits de l'homme, a recommandé à ce que la justice congolaise puisse se pencher sur les autres crimes, à savoir le crime des viols, la réduction à l'esclavage sexuel, l'utilisation des enfants soldats, c'est-à-dire la conscription. Donc je n'ai pas vu d'interdiction, et donc ce qui n'est pas expressément interdit dans la loi, je crois, est permis. Voilà, ça veut dire aussi que ce n'est pas une justice parfaite, hein, la justice pénale internationale. Donc le juge de la Cour pénale internationale n'a fait que se prononcer sur base des éléments qui lui ont été fournis. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un contrat judiciaire. Eh bien, c'est sur base de ça. Et si, comme l'a dit Maître Mouchata, il a existé un doute, parce que c'est au-delà du doute raisonnable, c'est ça le principe. Et les doutes profitent à l'accusé, c'est ça le principe. Et donc si Mathieu Ngoudjolo a été libéré, peut-être que les doutes lui a profité. Donc il n'y a pas de justice parfaite à ce niveau. Les juges statuent sur base des éléments qui lui sont fournis. Mais c'est aussi, il y a lieu aussi de recommander. Vous savez que la Cour pénale internationale, le procureur a beaucoup de moyens pour mener des enquêtes. Et ça serait intéressant de déférer devant la Cour des dossiers suffisamment ficelés. Pourquoi ? Parce que la Cour, le procureur de la Cour collabore avec l'État congolais, collabore avec les ONG des droits de l'homme, la société civile, et bien c'est mieux de transférer, de faire le transfèrement des personnes soupçonnées de crimes à la Cour pénale internationale lorsqu'on a des éléments assez suffisants pour pouvoir conduire un procès. Pourquoi ? Parce que évidemment ça étonne qu'une personne était à la Cour. Il y a eu l'audience des préliminaires, audience de confirmation des charges, il y a eu même un procès, et du coup, il est relaxé. Et donc ici, c'est une invitation à la Cour de ficeler les dossiers avant de les transférer les auteurs devant la Cour pénale internationale.
Maître Guy Mouchata, il y a Maître Adrien Ilobakwey de Kananga au Kasaï occidental qui dit la position ou l'arrêt de la CPI énerve les droits dans la mesure où Germain Katanga est reconnu coupable comme complice. Nous nous demandons qui est l'auteur de cette infraction, quel est le sort lui réservé. Bref, cet arrêt est une parodie de justice. Voilà, il évoque la question des vrais commanditaires, n'est-ce pas, dans ces conflits. Maître Guy Mouchata.
Complice n'est pas... Allô?
Oui, vous avez compris la question?
Oui, j'ai bien compris la question. Vous me suivez?
Ok, ça va.
Oui. Je disais que j'aimerais dire à l'auditeur que le complice n'est pas moins responsable que l'auteur direct. Parce que le complice porte la même responsabilité que l'auteur direct. Et dans ce sens, ce n'est qu'au niveau de ceux qui ont pu accéder au dossier physique, qui ont participé au débat, il n'y a que eux qui peuvent savoir exactement qui sont les auteurs directs. Et dans ce sens même si on devait savoir dans les débats qui sont les auteurs directs, nous n'avons pas encore une décision judiciaire pour dire que c'est X ou Y qui a été reconnu comme auteur direct. Et la justice fonctionne ainsi. On ne doit pas se poser la question à chaque fois où sont les auteurs directs, pourquoi on a condamné seulement le co-auteur ou le complice et pas l'auteur direct. Est-ce que Germain Katanga n'est-il pas responsable des actes qui lui ont été reprochés? N'a-t-il pas participé de manière, je dirais, déterminante à la commission de ces crimes? N'eût été l'appui ou l'aide qu'il a apporté? Est-ce que les crimes auraient été commis de telle manière? Est-ce que ces crimes auraient pu être commis sans l'aide qu'il a apportée, sans sa participation? C'est ça la vraie question que l'on doit se poser. Est-ce que par cette décision, les victimes se trouvent-elles rétablies dans leurs droits ou pas? Plutôt que de minimiser l'œuvre de la Cour, je pense que nous devons nous poser la question de savoir quel impact ce travail peut avoir par rapport à la reconnaissance des droits des victimes, surtout par rapport à la lutte contre l'impunité, quand nous sommes nous-mêmes dans un pays où la justice est complètement dysfonctionnelle par rapport aux crimes graves.
Oui.
Devrions-nous accepter que la Cour pénale internationale ne fasse pas son travail plutôt que de dire si la Cour ne faisait rien, plutôt que de dire qu'est-ce que nous pouvons, nous, à notre niveau, au niveau national, faire en complément, comme le disaient tantôt les autres co-débatteurs, que pouvons-nous faire au niveau national pour essayer d'intensifier la lutte contre l'impunité, pour essayer d'aider les victimes à pouvoir accéder à la justice, à pouvoir faire reconnaître leurs droits par la voie judiciaire. Je pense que nous devons aller de l'avant, essayer de juger l'œuvre de la Cour avec ses limites, mais aussi nous poser des questions fondamentales par rapport à la réforme de notre système judiciaire pour que réellement la lutte contre l'impunité par rapport à ces crimes graves puisse devenir effective.
Maître Guy Mouchata, vous avez suivi Monsieur Lalo qui pense que la CPI doit approfondir, n'est-ce pas, ses enquêtes. Vous avez suivi Maître Juvenal Mounoubo Moubi qui estime que le procureur de la CPI détient des moyens suffisants et donc il devait en principe présenter des dossiers bien ficelés.
En fait, je suis partiellement d'accord. On doit penser qu'une personne est accusée devant une juridiction, si c'était la Cour pénale internationale, nécessairement on doit aboutir à la condamnation. En ce moment-là, le système judiciaire servirait simplement à condamner, alors que le système judiciaire est là pour rétablir la vérité, et la vérité judiciaire. Donc si on aboutit à une condamnation, c'est que les faits sont avérés. Mais s'il arrive que les faits ne sont pas avérés, les juges doivent acquitter la personne. Le rôle de la justice n'est pas nécessairement de condamner, mais le rôle de la justice est de dire le droit par rapport aux faits. Si on arrive à une situation où les faits qui sont reprochés à un individu ne sont pas avérés, le rôle du juge, c'est de pouvoir libérer la personne. Sinon, on devient dans un système judiciaire, je dirais, qui est à sens unique.
Oui, Monsieur Jean Bosco Lalo, la Cour a souligné son pouvoir dans la région, donc les pouvoirs plutôt de Germain Katanga dans la région et sa qualité de commandant. Peut-on affirmer que sa culpabilité n'est pas liée aux actes qu'il aurait posés à Nitouri, mais plutôt au fait qu'il jouissait d'un certain pouvoir dans cette partie du pays?
Oui, vous savez que Germain Katanga a travaillé avec Martin Gudjolo dans les mêmes groupes. Et Germain Katanga était même moins gradé que Martin Gudjolo. Et vous savez, dans la communauté, la controverse est que maintenant Martin Gudjolo est acquitté et on condamne Germain Katanga. Donc quelque part, on commet des mortels, il se pose des problèmes d'appréciation. Donc c'est ça aussi, ce sont les exécutifs qui persistent.
Oui, Monsieur Lalo, vous avez évoqué les vrais commanditaires, n'est-ce pas, dans ces conflits de l'Ituri. Vous venez de suivre Maître Guy Mouchata qui pense que les complices n'est pas moins coupable que les véritables commanditaires.
C'est un principe du droit. Mais nous disons, lorsqu'on parle des complices, ça suppose qu'il y a l'auteur. Et si le place aussi, après, dans le commerce du mortel, on ne peut pas comprendre qu'on condamne le complice et qu'on laisse l'auteur. C'est des questions qui persistent et pour lesquelles les juges ou les procureurs devraient s'armer pour convaincre l'opinion.
Monsieur Lalo, vous insistez beaucoup sur les véritables commanditaires, l'auteur véritable. Avez-vous des éléments par rapport à ces commanditaires?
Les éléments ne peuvent pas être fournis sur une voie des ondes. Je pense que c'est un travail, pour lequel il faut des fouilles et des éléments qui sont probants, et le procureur n'est pas ignorant, et même lorsque vous suivez les co-débatteurs, ils sont bien conscients que les auteurs existent, mais on ne s'apprend qu'au complice, qui sont des petits poissons.
Mais c'est quand même étonnant que vous, de la société civile, vous ne puissiez pas saluer la décision de la CPI. Peu importe ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de cette décision, mais au moins on sait que le mérite, c'est que elle contribue, n'est-ce pas, à combattre l'impunité.
Pour nous, on ne peut pas saluer une décision pour le plaisir de saluer. Lorsqu'on salue, c'est qu'il fait qu'on s'y retrouve et on pense que ça peut faire avancer les choses. Mais dans le contexte actuel, nous sommes loin de croire à ce que les démarches de ces pays peuvent favoriser l'impunité dans les pays parce que on punit les uns, on laisse les vrais auteurs, vous voyez tout ça, ça laisse les gens perplexes.
Merci, Maître Juvenal Munubo Mubi. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Depuis Lubumbashi au Katanga, j'encourage la CPI et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce fameux verdict de la fameuse CPI. Ceci dans la mesure où les vrais commanditaires demeurent inconnus. Germain Katanga ne faisait qu'exécuter les ordres. Alors, pourquoi la CPI se contente seulement des Africains, pas des autres? Et pourquoi elle ne cherche pas les vrais criminels dans l'affaire Germain Katanga?
Maître Juvenal Munubo Mubi, une fois de plus, on soulève cette question des véritables commanditaires.
Oui, en fait, l'auditeur, je ne dirais pas qu'il a tort. Pourquoi ? Parce que, vous savez, un seul crime peut visiblement, apparemment, avoir un auteur, c'est-à-dire celui qu'on voit, qui a peut-être donné des ordres, ou comme pour les cas de Germain Katanga, aurait servi d'intermédiaire. Mais un crime peut avoir des origines beaucoup plus lointaines. Raison pour laquelle nous voulons qu'on remonte au délige, qu'on voit et toutes les implications possibles. Donc l'appel à aller plus loin, à aller en profondeur, eh bien c'est un bon appel qu'il faut lancer effectivement au procureur de la Cour pénale internationale. Et nous sommes convaincus qu'il possède des moyens assez important pour mener des enquêtes, les approfondir. Et comme je le disais, ça aurait été intéressant que, avant de déférer des personnes devant la Cour pénale internationale, qu'on ait assez d'éléments. Je ne dis pas que ça doit nécessairement aboutir. Je suis d'accord avec Maître Mouchata, mais au moins qu'il y ait la probabilité d'aboutir. Il faut accroître la probabilité que les dossiers aboutissent effectivement à une conclusion qui va dans le sens défavorisé la lutte contre l'impunité d'une façon beaucoup plus large.
Le réseau national des ONG des droits de l'homme de la RDC, RENADOC en sigle, s'est dit satisfait de la condamnation de Germain Katanga, mais il invite la CPI à aller plus loin, comme vous l'avez dit, notamment dans les enquêtes à l'encontre de tous ceux qui ont commis de graves crimes dans le Kivu et le Nord Katanga.
Oui, je crois que le procureur l'avait même annoncé que les Kivu seraient déjà concernés pour les enquêtes. Vous savez, en cette matière, il est difficile de savoir combien de mandats d'arrêt existent. Ça se fait en toute confidentialité, comme le recommandent d'ailleurs les statuts et les règlements de procédure. Donc, notre souci, effectivement, c'est que l'impunité... En fait, nous souhaitons l'impunité zéro. Et pas simplement la tolérance zéro, l'impunité zéro. Il faut mettre fin à l'impunité. Mais nous sommes aussi conscients qu'il faudrait, en plus de la justice répressive ou punitive, il faudrait également qu'il y ait une justice réconciliatrice, si on peut le dire, la justice transitionnelle. Raison pour laquelle il faut aussi encourager des mécanismes de justice transitionnelle comme la commission vérité et réconciliation, où les auteurs... les bourreaux ou ceux qui sont considérés comme des bourreaux, s'ils peuvent arriver effectivement à se parler, à se regarder dans les yeux, à se dire pardon et à faire une réparation, même symbolique, mais réparation tout de même, je crois que ça nous aidera à réconcilier les populations. Je crois qu'il faut penser à ça aussi, une commission vérité et réconciliation. Je sais qu'elle a existé durant la transition en République démocratique du Congo. Le bilan a été très mitigé, mais je crois que l'idée, il faudrait revenir sur l'idée, il nous faut cette commission vérité et réconciliation. C'est ça l'exigence de justice et paix. Justice et paix.
Et vous pensez que c'est une approche efficace?
C'est une approche efficace dans le sens où ça complète d'autres approches. Donc ça n'exclut pas la justice congolaise, la justice pénale internationale. En plus de tout ça, il faut aussi une justice transitionnelle, une justice qui réconcilie, une justice du genre commission vérité et réconciliation. Il faut tout ça, il ne faut pas se limiter uniquement dans les carcans de la justice répressive.
Maître Guy Mouchata, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. Le verdict de la CPI par rapport à l'affaire Germain Katanga ne suffit pas. Je pense qu'il faudrait aussi songer à la réparation ou au dédommagement des victimes des crimes commis par celui-ci pour que l'opinion puisse se rendre réellement compte qu'une véritable justice a été rendue par la CPI.
Oui, Maître Mouchata, c'est des questions dont vous vous occupez à la justice transitionnelle. Ce genre de décision, des décisions telles que celles qui a été prise par la CPI à l'encontre de Germain Katanga, sont-elles assorties des réparations ou des dommagements?
Pour le moment, lorsque la CPI a pris sa décision, il s'agit d'une décision sur la culpabilité. Et la fixation de la peine suivra et finalement... Il y aura un procès sur la réparation, comme cela a été le cas pour Thomas Lobanga. Mais je pense que les réparations judiciaires restent quand même très limitées. Je suis d'accord avec le confrère qui parlait tout à l'heure pour
Maître
dire qu'on doit tendre vers des mesures qui permettent la satisfaction de l'ensemble des droits des victimes. Et sur le plan du droit international, j'aimerais rappeler que le droit des victimes comporte notamment le droit à l'accès à la justice, le droit à la vérité, mais aussi le droit à la réparation. Et l'ensemble de ces droits sont en fait indissociables. Lorsqu'on parle de victimes qui ont participé à la procédure à la CPI, on ne doit pas oublier les autres victimes. Mais évidemment, nous avons un problème ici au niveau national par rapport à la conception que les autorités ont de la question de réparation. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on suivait encore par le voix des zones ce que les autorités pensent de la question de la réparation. Mais en ce qui concerne les violations graves, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les droits à la réparation aux victimes ne se limitent pas à leur participation à la procédure. Je m'explique. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement et seulement les victimes qui ont participé à la procédure devant la Cour pénale internationale qui doivent avoir droit à la réparation. Mais au niveau national, le gouvernement doit essayer de prendre des mesures pour garantir la réparation à l'ensemble des victimes des violations graves des droits de l'homme et des violations massives donc, du droit international humanitaire. Et dans ce sens, il est important d'aller vers un programme de réparation, mais qui pourrait être précédé justement d'une recherche de la vérité, c'est-à-dire la mise en place d'une commission de recherche de la vérité, et sans oublier évidemment les poursuites judiciaires et les réformes institutionnelles. Et donc, j'aimerais expliquer aux auditeurs que le droit à la réparation n'est pas limitatif seulement au niveau de la participation à la procédure judiciaire, mais c'est un droit qui est plus vaste et qui peut se mettre en œuvre au niveau national par un processus, je dirais, administratif.
Oui, vous évoquez les droits à la participation. Vous pensez que dans les faits, ces droits aient des mises dans les pays comme les nôtres?
Ben, pour le moment, je pense que les mécanismes de la justice transitionnelle ne sont pas entièrement mises en œuvre au niveau de notre pays. Nous y travaillons justement pour amener les autorités à comprendre cela, d'autant plus que nous avons des millions de victimes et que toutes ces victimes n'auront certainement pas accès à la justice. Et pour garantir la reconstruction d'un état des droits et reconnaître, n'est-ce pas, les conséquences des violations graves du passé sur cette bonne frange de la population, il demeure nécessaire, en tout cas sinon indispensable, d'avoir des mesures, de prendre des mesures de justice transitionnelle, de mettre en œuvre des mesures de justice transitionnelle. Ce n'est pas nouveau. Dans beaucoup de pays africains, on a ces mesures qui ont été mises en œuvre et qui ont permis justement de pouvoir reconstruire un état des droits et de mettre les victimes en avant-plan afin de lutter efficacement contre l'impunité et de garantir les droits de ces victimes.
Monsieur Jean Bosco Lalo, vous dites ne pas être satisfait, n'est-ce pas, par la décision de la CPI. Qu'est-ce que vous, en tant que société civile, vous envisagez de faire pour, n'est-ce pas, prévenir ce genre de situations? Que la CPI ne puisse plus prendre une décision qui puisse énerver, n'est-ce pas, la société civile de l'Ituri. Jean Bosco Lalo, apparemment, nous l'avons perdu, Maître Juvenal Mounoubo Moubi. Qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour que prochainement, la société civile de l'Ituri ne puisse plus exprimer ce genre de frustration?
Je crois que le secret réside dans la coopération avec la Cour. La société civile est appelée effectivement à coopérer avec la Cour. La Cour est appelée à expliquer davantage son action. Je crois que la frustration pourrait diminuer dans ce sens-là. Je crois aussi qu'un engagement de la Cour à aller en profondeur, et comme le disait Lalo, aller au-delà de ce qui apparaissent comme étant des auteurs intellectuels, peut-être qu'il y en a d'autres beaucoup plus intellectuels que eux, je crois que ça contribuera effectivement à apaiser ces tensions, tout comme la mise sur pied d'une justice transitionnelle, d'une commission vérité et réconciliation.
Je considère ça comme votre conclusion. Maître Guy Mouchata, votre conclusion.
Je pense que on doit laisser les temps à la Cour. C'est vrai, il y en a qui diront on a déjà laissé suffisamment de temps, mais aussi que la Cour doit mener une démarche explicative au niveau de l'Ituri, auprès des victimes, mais aussi auprès des autres membres des communautés qui sont là, qui ont souffert de ces graves violations. On ne doit pas se limiter seulement à la décision, mais mener une démarche de sensibilisation, d'explication sur ce qui s'est passé et sur le processus et jusqu'au niveau où nous sommes. Mais en même temps, elle doit diversifier ses enquêtes pour retenir davantage des charges représentatives.
Merci.
De ce qui s'est passé dans le contexte de l'Ituri. Et je pense, à terme, nous pouvons arriver à une justice qui puisse satisfaire véritablement, n'est-ce pas, les communautés affectées et les victimes.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.